Chapitre 10. Le chalet qu'occupait Madame de Barizel dans les allées de Lichtental était précédé d'un petit jardin. C'était dans ce jardin que Savine et Roger avaient fait leurs adieux à Madame de Barizel et à Corisandre avant que celles-ci fussent dans la maison. Ce fut vainement qu'elles frappèrent à la porte d'entrée, personne ne répondit. Aucun bruit à l'intérieur, aucune lumière. « Elles sont encore parties !» dit Corisandre d'un ton fâché. « Et Bob aussi !» Sans répondre, Madame de Barizel abandonna la porte d'entrée et, faisant le tour du chalet, elle alla à une petite porte de derrière qui servait aux domestiques et aux fournisseurs. Mais cette porte était fermée aussi. Au coup frappé, personne ne répondit. « Ne te fatigue pas inutilement !» dit Corisandre. Madame de Barizel ne continua pas de frapper, mais, allant à un massif de fleurs bordé d'un cordon de lierre, elle se mit à tâter dans les feuilles de lierre qu'éclairait la lumière de la lune. Ses recherches ne furent pas longues, bientôt sa main rencontra une clé cachée là. « Ce qui signifie, dit Corisandre, qu'elles ne sont pas sorties ensemble. La première rentrée devait trouver la clé et ouvrir pour les autres. » Elle parlait lentement, avec calme. Mais cependant, dans son accent, il y avait du mécontentement et aussi du mépris. Il semblait que ses paroles s'adressaient aussi bien aux domestiques qui avaient décampé qu'à sa mère qui permettait qu'ils sortissent ainsi. Avec la clé, Madame de Barizel avait ouvert la porte et elles étaient entrées dans la cuisine où brûlait une lampe, la mèche charbonnée. La table, noire de graisse, était encore servie et il s'y trouvait six couverts, des piles d'assiettes sales et un nombre respectable de bouteilles vides qui disaient que les convives avaient bien bu. « Chacun de nos trois domestiques avait son invité, » dit Corisandre, regardant la table. « On a fait honneur à ton vin. » Ce n'était pas seulement au vin qu'on avait fait honneur. C'était à un melon et à un pâté dont il ne restait plus que des débris, à des écrevisses dont les carcasses rouges encombraient plusieurs plats, à un gigot réduit aux manches, à un immense fromage à la crème, à une corbeille de fraises, à une corbeille de cerises qui ne contenait plus que des queues et des noyaux, au café qui avait laissé des ronds noirs sur la table, au kirschwasser, au cassis, dont deux bouteilles étaient aux trois quarts vides. De tout cet amas se dégageait une odeur chaude qui, mêlée à celle de la graisse et de la vaisselle, troublait le cœur et le soulevait. On eût sans doute parcouru toutes les maisons de Bade sans trouver une cuisine aussi sale, aussi pleine de gâchis et de désordre que celle-là. Elles n'y restèrent point longtemps. Madame de Barizel avait pris la lampe d'une main et, de l'autre, relevant la traîne de sa robe, tandis que Corisandre retroussait la sienne à deux mains comme pour traverser un ruisseau, elles étaient passées dans le vestibule. Mais là, il n'y avait point de bougie sur la table où elles auraient dû se trouver, et il fallut aller dans le salon chercher des flambeaux. Nulle part un salon ne ressemble à une cuisine. Mais nulle part aussi on aurait trouvé un contraste aussi frappant, aussi extraordinaire, entre ces deux pièces d'une même maison que chez Madame de Barizel. Autant la cuisine était ignoble, autant le salon était coquettement arrangé, disposé pour la joie des yeux, avec des fleurs partout. Dans le foyer de la cheminée, sur les tables et les consoles, dans les embrasures des fenêtres, et ces fleurs toutes fraîches, enlevées de la serre ou coupées le matin, versaient dans l'air leur parfum, qui, dans cette pièce fermée, s'était concentré. Le flambeau à la main, elles montèrent au premier étage où se trouvait leur chambre, celle de Corisandre tout à l'extrémité, et séparée de celle de sa mère, qu'il fallait traverser pour y accéder, par un cabinet de toilette. Ces deux chambres, ainsi que le cabinet, présentaient un désordre qui égalait celui de la cuisine. Les lits n'étaient pas faits, les cuvettes n'étaient pas vidées. Sur les chaises et les fauteuils traînaient ça et là, entassés dans une étrange confusion, des robes, des jupons, des vêtements, des bas, des cols, des bottines, tandis que les armoires et des malles ouvertes montraient le linge déplié, pêle-mêle, comme s'il avait été mis au pillage par des voleurs qui auraient voulu faire un choix. Cependant, il n'y avait pas besoin d'être un habile observateur pour comprendre que tout cela n'était point l'ouvrage d'un voleur, mais qu'il était tout simplement celui des habitants de cet appartement qui, en s'habillant le matin, avaient fouillé dans ses armoires pour y trouver du linge en bon état et qui avaient tout bouleversé parce que les premières pièces qu'ils avaient atteintes dans le tas manquaient l'une de ceci, l'autre de cela. Cette robe avait été rejetée parce que la roue du jupon était déchirée. Ses bas avaient des trous. Ses jupons n'avaient pas de cordon. Les boutons de ses cols étaient arrachés. Madame de Barizel ne parut pas surprise de ce désordre, mais Corisande haussa les épaules avec un mouvement d'ennui et de dégoût. « Elles n'ont pas seulement pu faire les chambres » dit-elle. Madame de Barizel ne répondit rien et parut même ne pas entendre. « Cela est insupportable !» continua Corisande, qui, à peu près muette tant qu'avait duré la promenade, avait retrouvé la parole en entrant chez elle et s'en servait pour se plaindre. « Qui va faire mon lit ?»«
Tu te coucheras sans qu'il soit fait, pour une fois. »«
Si c'était la première. Au reste, elles ont bien raison de ne pas se gêner, tu leur passes tout. »«
Couche-toi, » dit-elle à sa fille, « j'ai à te parler. »
« Il faut au moins que j'arrange un peu mon lit. »«
Tu es devenue bien difficile depuis quelque temps, bien bourgeoise. »«
Justement, c'est le mot. C'est précisément la vie bourgeoise que je voudrais, un peu d'ordre, de régularité, de propreté, car je suis lasse et écœurée à la fin de tout ce gâchis. Ne pourrions-nous donc pas avoir des domestiques comme tout le monde, une maison comme tout le monde, une existence comme tout le monde ?»
Tout en parlant, elle avait défait son chapeau et sa robe et les avait posés où elle avait pu et comme elle avait pu. Puis, les bras nus, les épaules découvertes, elle avait commencé à arranger les draps de son lit. Mais elle était malhabile dans ce travail qu'elle essayait manifestement pour la première fois.
« Faut-il tant de cérémonies pour se mettre au lit ?» dit Madame de Barizel en haussant les épaules, sans se déranger pour venir en aide à sa fille. « Dépêche-toi un peu, je te prie, ou si tu ne veux pas te coucher, je vais me coucher, moi, et tu viendras dans ma chambre. »
La mère n'avait pas les mêmes exigences que la fille. Elle ne s'inquiéta pas de son lit, et sans se donner la peine de l'arranger, elle se déshabilla, laissant tomber çà et là ses vêtements, sans daigner se baisser pour les ramasser. Ce serait l'affaire du lendemain. Pour le moment, elle était fatiguée et voulait se mettre au lit. Il arrivait bien souvent que, lorsqu'on les rencontrait ensemble, sans savoir qui elles étaient, on ne voulait pas croire qu'elles fussent la mère et la fille. Si ceux qui pensaient ainsi avaient pu voir Madame de Barizel procéder à sa toilette de nuit, ou plutôt se débarrasser de toute toilette, ils se seraient confirmés dans leur incrédulité. Si cette femme avait 37 ou 38 ans, comme on le disait, elle était parfaitement conservée. Pas un crépon, pas la plus petite natte, pas un cheveu gris, pas de rides, les plus beaux bras du monde, blancs, fermes, se terminant par un poignet aussi délicat que celui d'un enfant. Avec cela, une apparence de santé à défier la maladie, une solidité à résister à tous les excès. Les propos dont Oussus s'était fait l'écho auraient été explicables pour qui l'aurait vu en ce moment. Elle pouvait très bien avoir des amants. Elle pouvait être la maîtresse d'Avisard et de Le Plaquer, elle pouvait poursuivre l'idée de se faire épouser par Daïel, elle pouvait être aimée. Il est vrai que si l'un de ses amants avait pénétré à cette heure dans cette chambre, il aurait pu éprouver un mouvement de répulsion causé par ce qu'il aurait remarqué et emporter une fâcheuse impression des habitudes de sa maîtresse. Mais Madame de Barizel n'admettait personne dans sa chambre, à l'exception du fidèle Le Plaquer, que rien ne pouvait blesser, rebuter ou dégoûter. C'était dans les appartements du rez-de-chaussée qu'elle recevait ses amis. Et là, dans un milieu où tout était combiné pour parler aux yeux et les charmer, entourée de fleurs fraîches, en grande toilette, rien en elle ni autour d'elle ne permettait de deviner les dessous de son existence vraie. Il voyait le salon, le boudoir, la salle à manger, ses amis. Il ne voyait ni la cuisine, ni les chambres. Il voyait les dentelles ou les guipures de la robe, les fleurs de la coiffure, les pierreries des bijoux, Il ne voyait pas les épingles qui rafistolaient un jupon, les trous des bas, les déchirures de la chemise, les raies noires du linge. Pour eux, comme pour Madame de Barizel d'ailleurs, ne comptaient que les dehors et ils étaient séduisants. Elle fut bientôt au lit, mais au lieu de s'allonger, elle s'assit commodément. « Maintenant, dit-elle, causons.
Qu'ai-je fait encore ?
Tu n'as rien fait et c'est là justement ce que je te reproche. Et ce n'est pas pour mon plaisir, c'est dans ton intérêt. »
« Ton plaisir, non, j'en suis certaine. Mais mon intérêt, le tien aussi, il me semble. »
« Est-ce ton mariage que je veux, oui ou non ?»«
Le mien d'abord et le tien ensuite, c'est-à-dire le tien par le mien. Parce que je ne parle pas, il ne faut pas s'imaginer que je ne vois pas. C'est justement parce que je ne perds pas mon temps à parler que j'en ai pour regarder. »
« Ce n'est pas avec les yeux qu'on voit, c'est avec l'esprit. »«
Ne me dis pas que je suis bête, tu me l'as crié aux oreilles assez souvent pour qu'il soit inutile de le répéter. Il est possible que je sois bête et quand je me compare à toi, je suis disposée à le croire. Je sais bien que je n'ai ni tes moyens de me retourner dans l'embarras, ni ton assurance, ni tes idées, ni ton imagination, ni rien de ce qui fait que tu es partout à ton aise. » Je sais bien que je ne peux pas parler de tout comme toi, même des choses et des gens que je ne connais pas. Si, au lieu de me laisser dans l'ignorance à ne rien faire sans me donner des maîtres, on m'avait fait travailler, je ne serais peut-être pas aussi bête que tu crois. Est-ce que je sais quelque chose, moi? Est-ce qu'on m'a jamais rien appris? Est-ce que j'ai jamais eu des maîtres? Oh, toi!
Assurément, il n'y eut pas de tendresse dans cette exclamation, mais au moins quelque chose comme de l'admiration. Ce fut la reconnaissance sincère d'une supériorité. Au reste, rien ne ressemblait moins à la tendresse d'une mère pour sa fille ou d'une fille pour sa mère que la façon dont elle se parlait. Même lorsque Madame de Barizel semblait en public témoigner de la sollicitude et de l'affection à Corisandre, le ton attendri qu'elle prenait ne pouvait tromper que ceux qui s'en tiennent aux apparences. Quant à Corisandre, qui ne se donnait pas la peine de feindre, son ton était celui de l'indifférence et de la sécheresse.
« Cela te blesse que ta mère se remarie ?»«
Oh, pas du tout. Et même, à dire vrai, je le voudrais si cela devait... »«
Puisque tu as commencé, pourquoi ne vas-tu pas jusqu'au bout ?»
Parce que, si bête que je sois, je sens qu'il y a des choses qui deviennent plus pénibles quand on les dit que quand on les tait. Les taire ne les supprime pas, mais les dire les grossit. Il y eut un moment de silence, mais non de confusion ou d'embarras, au moins pour Madame de Barizel, qui se contenta de hausser les épaules avec un sourire de pitié. Évidemment, les paroles de sa fille ne la blessaient pas plus qu'elle ne la peinait, et son sentiment n'était pas qu'il y a des choses qui deviennent plus pénibles quand on les dit que quand on les tait. Ces choses que Corisandre retenait, elle eût jusqu'à un certain point voulu les connaître, par curiosité, pour savoir. Mais en réalité, elle ne trouvait pas que cela valût la peine de les arracher. Elle avait mieux à faire pour le moment, et c'était chez elle une règle de conduite d'aller toujours au plus pressé.
« Si ton mariage doit faire le mien, dit-elle, il me semble que c'était une raison pour être aujourd'hui autre que tu n'as été. Combien de fois t'ai-je recommandé d'être brillante? Tu t'en remets à ta beauté pour faire de l'effet et tu n'es qu'une belle statue qui marche. »
« Il me semble que c'est quelque chose, dit Corisandre, se souriant, s'admirant complaisamment dans la glace.
« Il fallait parler, continua Madame de Barizel. Briller, être séduisante, étourdissante, dire tout ce qui te passait par la tête. Dans une bouche comme la tienne, avec des lèvres comme les tiennes, des dents comme les tiennes, les sottises mêmes sont charmantes. »
Je n'avais rien à dire.
Même quand le duc de Nauruse parlait de son pays, il n'était pas difficile de trouver quelques mots sur un pareil sujet pourtant. Je ne pensais pas à parler, je le regardais. Il est très bien, le duc de Nauruse. Il a tout à fait grand air, la mine fière, l'œil doux. Il me plaît.
Personne ne doit te plaire. C'est toi qui dois plaire. s'écria Madame de Barizel, s'animant pour la première fois et montrant presque de la colère. « Il te plaît, un homme que tu ne connais pas ? Il est duc ? Et qu'est-ce que cela prouve ? Sais-tu seulement quelle est sa fortune ? Tu demanderas cela à tes amis. Le plaquet doit le connaître, Monsieur Dayel doit savoir quelle est sa fortune. » Ce n'est pas du duc de Naurouze qu'il s'agit, c'est de Savine, le seul qui, présentement, doit te plaire. Il ne me plaît point. Ne vas-tu pas maintenant te mettre dans la tête que tu es libre de n'épouser que l'homme qui te plaira ? Je le voudrais. Une fille ne doit voir dans un homme qu'un mari, le reste vient plus tard. On a toute sa vie de mariage pour cela. Savine est-il ou n'est-il pas un mari désirable pour toi ? Pour nous ! Ne m'agace pas. Ton mariage est assuré si tu le veux. Je mettrai tout en œuvre pour qu'il réussisse. Mais il me semble que le prince n'offre rien jusqu'à présent. Il paraît prendre plaisir à être avec nous, à se montrer avec nous partout où l'on peut le remarquer. Il nous offre beaucoup son bras, quelquefois ses voitures. En tout cas, je ne vois pas qu'il m'offre de devenir sa femme. À vrai dire, je ne crois même pas qu'il en ait l'idée. S'il ne l'a pas encore eu, cette idée, c'est ta faute. Ce n'est pas en étant ce que tu es avec lui que tu peux échauffer sa froideur. Je t'avais dit qu'il était l'orgueil même et que c'était par là qu'il fallait le prendre. L'as-tu fait ? Des compliments, les éloges les plus exagérés, il les boite avec béatitude. Lui en as-tu jamais fait ? Cela m'ennuie. Et tu t'imagines qu'il n'y a pas d'ennuis à supporter pour devenir princesse quand on est ce que nous sommes ? Tu t'imagines qu'il n'y a pas de peine à prendre, pas de fatigue à s'imposer, pas de dégoût à avaler en souriant ? Tu t'imagines que tu n'as qu'à te montrer dans la gloire de ta beauté ? Eh bien, si belle que tu sois, tu n'arriverais jamais à un grand mariage si je n'étais pas près de toi. Tu peux le préparer par ta beauté, cela est vrai. Mais le poursuivre, le faire réussir, pour cela ta beauté ne suffit pas. Il faut ce que tu n'as pas et ce que j'ai, moi. Et cependant, ni la beauté ni ce que tu as n'ont encore décidé Savine. Il se décidera, ou plutôt on le décidera. Qui donc ? Le duc de Naurouze qui te fera princesse. J'aimerais mieux qu'il me fît duchesse. Ne dis pas de niaiserie. Explique-moi plutôt pourquoi j'ai eu peur que tu n'aies froid dans le château d'Eberstein qui n'est pas glacial.
Je te le demande.
Explique-moi plutôt pourquoi j'ai eu l'idée de te faire faire une promenade en bateau.
Pour rester seule avec le prince.
Madame de Barizel se mit à rire. J'ai eu peur que tu n'aies froid pour te ménager un tête-à-tête avec le duc de Naurouze. Je t'ai fait faire une promenade en bateau pour continuer ce tête-à-tête, ce qui deux fois a rendu le prince furieux. C'est en l'éperonnant ainsi que nous le ferons avancer malgré lui. Et c'est à cela que le duc de Naurouze nous servira.
Pauvre duc de Naurouze !
Vas-tu pas le plaindre plutôt ? Il sera bien heureux au contraire, sans compter qu'il aura le plaisir de nous rendre un fameux service. Mais ce qui serait tout à fait aimable de sa part, ce serait d'être en situation de fortune, d'inspirer des craintes réelles à Savine et d'être, comme mari possible, un rival redoutable. C'est ce qu'il me faut savoir et ce que je saurai demain par le plaquet ou, en tout cas, après-demain par M. Dayel que j'attends. Maintenant, va dormir, car je crois bien que Coralie ne rentrera pas. Rêve du duc de Naurouze, si tu veux, de son grand air, de sa mine fière, de ses yeux doux. Cela te fera trouver ton lit moins mauvais. Bonne nuit, princesse.
Bonne nuit, financière.